l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Bonjour à toutes et à tous, 12h passées d'une petite minute, comme à l'accoutumée, sur la pendule de Présence. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au nom de toute l'équipe de Radio Présence. Bien sûr, une très très belle et sainte année à l'écoute de nos programmes. Merci pour votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est le premier Présence Midi de l'année que j'ai le plaisir de partager avec vous. Au sommaire, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard. Nous parlerons écologie, bien sûr, c'est en général le sujet de sa chronique, et nous parlerons de méthanisation en compagnie de Sophie Villard. Nous veillerons sur vous, c'est le coup de cœur en librairie de Nicolas Dargegen pour ouvrir cette année. Nous découvrirons cet ouvrage aux alentours de 12h20. La fraternité Saint-Laurent sera à l'honneur de la chronique solidaire de Anne Deslois aujourd'hui. Nous découvrirons un petit peu cette fraternité et comment est-ce qu'elle œuvre. Et enfin, l'auteur de la semaine avec Catherine Albrecht, de la semaine bien sûr, qui a écrit sur nos belles Pyrénées, sur l'Occitanie en général, ce sera, vous le connaissez tous, Alain Fournier, à découvrir aux alentours de 12h55. Voilà le programme que je vous propose au cours de cette heure à venir. Un programme que nous allons débuter avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Ibos. Ibos, juste à côté de Tarbes. Hein. Et le choix que j'ai fait, c'est de mettre à la lumière une femme qui est connue dans le territoire, qui est force d'initiative et puis d'innovation, qui s'appelle Sophie Villard. Et donc, Sophie Villard, elle a une compétence experte importante autour de tout ce qui concerne la méthanisation. Et donc, je trouvais ça très intéressant de la rencontrer, de vous faire, chers auditeurs, rencontrer Sophie Villard pour parler justement de ces enjeux très importants dans ce qu'est le réchauffement climatique, de la méthanisation. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Peut-être simplement, on va vous demander de vous présenter pour les auditeurs et puis nous expliquer un petit peu toutes ces belles choses que vous faites depuis un petit moment maintenant.
Oui, un petit moment, une 30 ou 40... 40 années professionnelles, donc au service des projets et du développement agricole. Dans une première partie de ma vie, ça s'est passé à l'étranger, dans les pays du Sud, entre l'Afrique centrale et Madagascar. Et dans un deuxième temps, je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, à la Chambre d'agriculture. Et depuis, je travaille donc avec les agriculteurs de ce département. Dans les années 2000, j'étais à Lourdes, au sein de la COP des Gaves. Donc pour valoriser les productions locales et permettre aux agriculteurs de vendre en direct leurs produits. Et depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai créé une activité donc autour de la méthanisation agricole.
Donc peut-être dire à nos auditeurs un petit peu les principes en toute simplicité de la méthanisation et les enjeux par rapport notamment à l'agriculture des Hautes-Pyrénées.
Alors le principe de la méthanisation est assez simple. Il faut imaginer un gros estomac dans lequel on va intégrer des résidus de culture, des fumiers et des lisiers. Et grâce à une réaction anaérobie, donc ce mélange qui va être chauffé pendant 30, 40 ou 50 jours, va permettre donc la production de biométhane, qui une fois épuré, est donc réintégré dans les réseaux de gaz de ville, et ensuite est distribué donc dans toutes les maisons, comme l'est traditionnellement le gaz de ville. C'est exactement la même molécule en fait que le gaz naturel, qui est un gaz fossile, donc issu de l'épuration du pétrole.
Effectivement, et puis les enjeux avec la crise énergétique qu'on a connue depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, les enjeux c'était aussi d'avoir recours à des ressources locales pour pouvoir produire de l'énergie et de l'énergie renouvelable, et c'est l'idée aussi de la méthanisation, c'est ça, hein ?
Oui, c'est bien l'idée de la méthanisation, mais avec une autre richesse. La première richesse, c'est donc le gaz qu'on va intégrer dans les réseaux, et là on a un gaz qui est renouvelable, avec un bilan carbone qui est équilibré, puisqu'en fait, ce CH4 est issu de... arrive donc des plantes, les plantes qui ont été mangées par les vaches qui ont fait des fumiers, mais on reste du coup dans un... on ne va pas chercher du carbone dans le sol, on profite du carbone qui est dans notre environnement. Le deuxième intérêt, c'est qu'après la méthanisation, on va récupérer donc une sorte de boue qui reste au fond du digesteur. Et ce digestat, enfin cette boue qu'on appelle digestat, va être répandue sur les champs comme auraient pu l'être les lisiers et les fumiers. L'avantage de ce digestat, c'est qu'il a plus d'odeur, contrairement aux lisiers et aux fumiers. Et en plus, il a une composition qui est constante et on a une bien meilleure maîtrise de l'azote et des produits fertilisants. Ce qui fait que derrière... par l'utilisation de ce digestat, on peut améliorer les pratiques agronomiques avec une bien meilleure maîtrise de la fertilisation, et on peut du coup réduire énormément, on dit qu'entre 50 et 90% des intrants minéraux peuvent être supprimés sur l'exploitation grâce à l'utilisation de ce digestat. Le troisième grand intérêt de la méthanisation, c'est que du coup on produit du gaz sur notre territoire, le biogaz devient donc une production agricole. Et ce biogaz peut être utilisé pour la mobilité. Or, le gaz dans la mobilité, c'est des véhicules qui font beaucoup moins de bruit que des véhicules diesel traditionnels. Et c'est surtout des véhicules qui, du coup, ne vont pas émettre beaucoup moins de CO2. Et s'ils émettent du CO2, c'est donc un CO2 d'origine environnementale et non pas fossile.
Alors, si je comprends bien, c'est assez extraordinaire ce que vous nous expliquez, puisque en fait, on comprend que finalement, ce qui pourrait être un déchet, au vu d'une exploitation agricole dans le modèle traditionnel, devient en fait une richesse à toute l'humanité, et en particulier pour les habitants de ce territoire, puisque alors que c'était vécu notamment par les habitants du territoire comme étant quelque chose qui sentait mauvais, etc., finalement, ces lisiers, ces fumiers, ils peuvent devenir un petit peu de l'or, quoi.
Et alors, j'irai même encore plus loin que ça. C'est une filière qui est complètement magique et qui est d'autant plus magique sur nos territoires ruraux qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles filières. Les nouvelles filières aujourd'hui très technologiques n'arrivent pas beaucoup sur nos territoires. Or là, on se retrouve, on part d'une production agricole, on va produire grâce à un procédé un peu industriel, donc du gaz. Et puis derrière, ce gaz, on va l'utiliser soit pour alimenter l'hôpital, les maisons, ou alors alimenter nos voitures. Et donc, autour de cette filière, on réunit tout le monde. On réunit les agriculteurs d'un côté qui produisent, on va réunir les techniciens, que ce soit des soudeurs, que ce soit des techniciens de maintenance, que ce soit des gens qui interviennent donc dans les industries. Et puis, à l'autre bout, on réunit tous les citoyens et on réunit également tous ceux qui sont dans le transport, tous ceux qui roulent, c'est-à-dire tout le monde, quoi.
Je vais faire assez rapidement un petit pour bien comprendre que lorsqu'on a parlé, notamment dans l'émission, on a parlé des projets alimentaires territoriaux, où on mettait tous les acteurs autour sur les enjeux de l'alimentation, mais là, sur l'enjeu de l'énergie, c'est un peu la même démarche, c'est le même processus, et c'est les mêmes enjeux sociaux aussi, donc ça c'est assez formidable. Et vous, Sophie, en fait, vous portez cette ingénierie, cette expertise, et vous essayez, si j'ai bien compris, de développer cette expertise auprès des acteurs susceptibles d'être intéressés.
Alors, on essaye de développer pour cette expertise pour pouvoir développer un certain nombre de projets. En rajoutant juste un élément, c'est que non seulement on peut réunir tout le monde autour de la table, mais puisqu'aujourd'hui l'État a défini des prix garantis d'achat du gaz, on se retrouve donc pas dans une compétition entre les uns et les autres. On peut être tous autour de la table, il n'y a pas de question véritablement d'argent, même s'il y a des grosses sommes en cause. Et donc, on peut tous parler de manière concertée et puis équilibrée.
Et alors, si j'ai bien compris les explications que j'ai eu la précaution de prendre avant qu'on se rencontre, en plus, vous y mettez aussi de l'économie sociale et solidaire, parce que derrière ces réflexions, en fait, les acteurs de développement, ce sont aussi des coopératives, en fait.
Oui, on a essayé de bâtir donc avec la coopérative Ecogaz, qui aujourd'hui est une structure gérée par les agriculteurs, mais dont l'objectif est de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires de la filière pour pouvoir développer des projets et faire connaître le biogaz à tout un chacun. Donc Ecogaz porte aujourd'hui donc la maîtrise d'ouvrage pour le développement d'unités de méthanisation. Et on a essayé de bâtir un modèle un petit peu original en partant du constat que les agriculteurs n'étaient pas forcément en mesure d'investir des grosses sommes dans des unités de méthanisation et ne maîtrisaient pas non plus ces techniques industrielles qui ne sont pas de leur métier, quoi, qui sont particulières. Donc en fait, la coopérative Ecogaz assure la maîtrise d'ouvrage pour faire émerger des projets sur des territoires. Du coup, en apportant la compétence nécessaire pour la définition des lieux où ces installations peuvent se faire, la conception technique, le montage financier. Et lorsque tout ça est prêt et que les unités, quelque part, sont prêtes à être construites, et ben, entre-temps, les agriculteurs se sont organisés et ils sont en mesure, du coup, de bâtir une coopérative agricole qui va être propriétaire de l'unité de méthanisation et qui va la gérer dans le temps. Et Ecogaz ne disparaît pas à ce moment-là, puisque la coopérative Ecogaz continue à apporter une expertise sur toutes les questions qui dépassent, je dirais, le secteur agricole, c'est-à-dire les mises aux normes industrielles, les problèmes de respect de la législation, les problèmes de maintenance industrielle, etc. Et cette coopérative Ecogaz va être aussi garante à la fois de l'ancrage avec le territoire, du lien avec les collectivités locales, du lien avec tous les gens qui sont sur le territoire, et va être garante aussi de la solidarité entre différentes unités de méthanisation pour pouvoir échanger des machines, des équipements, éventuellement des moyens, des compétences, etc. Donc en fait, on bâtit un environnement coopératif. Au départ, en partant du constat que la méthanisation est difficile puisque c'est un secteur qui n'appartient pas à l'agriculture et surtout qu'elle demande énormément de moyens financiers pour investir. Or, l'agriculture aujourd'hui dans nos départements n'a plus ou n'a pas ces moyens financiers. Mais pourtant, elle a besoin de la méthanisation pour compléter des revenus, pour traiter des effluents qui sont quand même aujourd'hui, qui posent des contraintes sur des territoires qui sont ruraux et urbains. Et puis, elle a besoin aussi de cette méthanisation qui est une opportunité pour améliorer les pratiques agricoles et limiter les entrains minéraux et se préparer à la transition environnementale, puisque par des meilleures fertilisations, eh ben, on répondra beaucoup mieux aux enjeux environnementaux. Au manque d'eau à certaines périodes, à trop d'eau à d'autres périodes, on sera beaucoup plus en mesure de pouvoir encaisser ces variations.
Moi, j'ai tout compris. Hein. Ça veut dire que vous, Sophie, vous êtes un maillon clé de l'avenir de l'agriculture, puisque effectivement, on découvre dans vos propos des enjeux stratégiques considérables autour de l'avenir de nos exploitations agricoles. Donc, je mesure encore plus que jamais combien il est important aussi d'avoir des acteurs comme vous, des compétences expertes pour permettre justement de créer de la valeur ajoutée différemment tout en restant dans le cœur de son métier, chacun à sa place, hein, c'est ça. Hein.
Tout à fait, mais en fait, on peut y arriver que si on est nombreux autour de la table, puisque ces installations imposent une multitude de compétences et une multitude de moyens. Et d'ailleurs, je profite de cette opportunité. La coopérative aujourd'hui lance un appel pour des gens qui auraient envie de participer au projet. Et on lance un appel pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'argent dans ce projet, en sachant que ça sera de l'argent qui sera mis dans les projets comme on pourrait le mettre dans une banque, puisque c'est de l'argent qui rapportera un petit peu des intérêts. Et je dirais qu'à partir de 1 000 euros, tout le monde peut apporter sa part à l'édifice et participer à ce projet, en sachant que du coup, les gens seront véritablement acteurs de la coopérative, puisque du coup, ils rentrent dans l'actionnariat de la coopérative.
Donc Sophie, alors ça c'est quand même une information très importante, c'est-à-dire que si on habite sur ce territoire, on veut être acteur de développement, on est convaincu que la dimension que vous portez est essentielle, plutôt que laisser dormir son argent sur des épargnes, faire vivre cet argent dans les investissements et dans le développement local, on peut le faire avec la coopérative. Donc peut-être laisser un contact, soit internet, soit un contact téléphonique pour les auditeurs qui seraient intéressés.
Un contact internet, vous pouvez aller sur le site donc de Ecogaz. Ecogaz, c'est Ecaogaz avec l'accent bigourdan. Donc c'est la vache qui produit du gaz. Je ne sais pas si je peux donner un numéro de téléphone.
Oui, oui, oui.
Bon, moi je peux donner mon numéro de téléphone, donc le 06 70 71 28 87. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, tout le monde a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que tout seul, les agriculteurs aujourd'hui n'auront pas les moyens d'apporter les fonds propres qu'exigent les banques pour pouvoir leur prêter de l'argent. Et inversement, eh ben, en travaillant à ça, ils permettent d'améliorer notre environnement parce qu'on n'aura plus ces odeurs de fumier et de lisier au moment des épandages. Et on sait qu'on va du coup tous ensemble vers des pratiques qui sont vertueuses pour nous tous, quoi. Et c'est vrai que la production de gaz, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés. Je dirais, on est tous intéressés par cette énergie, quoi.
Merci infiniment, Sophie. On arrive à la fin de cette émission. Donc, chers auditeurs, si un jour vous avez la curiosité de venir jusqu'à Ibos, en fait, la structure est juste à côté d'AgriVision, donc derrière le Méridien.
Oui.
Hein, donc, il y a d'ailleurs une station qui distribue du GNV.
Oui.
Il y a des poids lourds qui viennent charger en GNV pour rouler. Hein, donc, n'hésitez pas. Si elle est là, vous lui venez dire, c'est super ce que vous faites. Et tout simplement, et ça l'encouragera. Merci beaucoup, Sophie.
Merci beaucoup.
Je pense que vous avez ouvert des vocations nouvelles et puis des ambitions nouvelles à tous nos auditeurs. Et puis, écoutez, plein de réussite pour votre projet. Et merci encore. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup et à bientôt. Et bienvenue sur la station d'Ibos, qui est aussi une société en économie circulaire avec des acteurs locaux. Et si vous passez par là, je vous expliquerai tout ça et je vous ferai visiter nos installations.
Merci encore. Au revoir, chers auditeurs.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir la Fraternité Saint-Laurent. Le coup de cœur en librairie de Nicolas Dargegène cette semaine. Juste après, 3 cafés gourmands.
Un bisou, un L'année prochaine, j'aurai 20 ans et j'irai parcourir le monde. Premier tatouage, énième amant, la vie sauvage à la seconde. La famille qu'on s'est dessinée, des frangins pour l'éternité.
L'année prochaine, j'aurai 30 ans, j'arrêterai enfin les conneries. Je songerai à faire des enfants, j'en aurai que pour mon chéri. J'ai la meilleure version de moi-même, j'ai le bonheur façon challenge. J'aurai des mots et mes premières séances de tour.
L'année prochaine j'aurai 40 ans, je m'écouterai enfin. Divorcé de ces engagements qui ne me ressemblaient en rien. Je ferai des excès mais sereinement, en me disant que j'ai tout mon temps. Qu'ils me vont bien, mes 40 ans.
L'année prochaine j'aurai 50 ans. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est vieux? Même si mes genoux m'annoncent le temps, je cours toujours plus vite que mon vœu. Je regarde les oiseaux s'envoler et à chaque saison repasser.
L'année prochaine j'aurai 60 ans. Je donnerai raison aux insomnies,
je donnerai raison aux petits-enfants, plus souvent à leur mamie.
Face au miroir il est grand temps que j'aie enfin de compromis.
Ma vie ne sera plus belle qu'avant.
Marios.
files comme des secondes. Je n'ai même pas vu passer le temps. Même si j'ai fait le tour du monde, qu'est-ce que j'ai compris du présent? Qu'est-ce que j'ai retenu de la ronde? Des hommes, des femmes et des enfants. Que la vie, mon grand. Oui, la vie, mon grand. Le tour du monde, qu'est-ce qu'on a compris du présent? Qu'est-ce qu'on a retenu de la ronde?
L'année prochaine, eh bien ça y est, nous y sommes. Bienvenue en 2026. C'était le groupe 3 Cafés Gourmands.
Radio Présence à Pamiers, 100.2.
Et le coup de cœur en librairie de cette
Bonjour.
Semaine.
Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un coup de cœur pour un livre. Nous veillerons sur votre dignité. Par Elisabeth de Courrèges, édité par MAM en 2022. En flânant dans les rayons de la librairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, mon regard a été attiré par ce petit livre pas très épais. La première de couverture est une photo de son auteur, une jeune femme souriante, mais ce qui m'a surtout attiré, c'est son titre surprenant « Nous veillerons sur votre dignité ». Quelle pouvait être cette dignité et en quoi peut-on avoir besoin que quelqu'un veille sur elle? Le livre se lit d'une traite, tellement il est bien écrit, percutant et émouvant. Elisabeth de Courrèges est ergothérapeute dans un centre de soins palliatifs. Sa fonction consiste à veiller au bon confort des patients qui arrivent dans ce centre, que ce soit pour un séjour long ou pour un séjour plus court, pour les accompagner au mieux jusqu'à la fin de leur vie. Cet ouvrage est un rassemblement de Fioretti, de petits moments de vie qu'elle a pu vivre auprès de ces personnes-là. Elle nous donne des exemples concrets de tranches de vie, des moments de vie délicatement et pudiquement relevés et écrits. Le livre commence par une belle histoire qui donne de suite le ton de tout ce qui va suivre. Monsieur L arrive pour la troisième fois dans le bureau du médecin pour lui dire qu'il va amener sa femme en Suisse où elle pourra être euthanasiée. Son épouse souffre d'une maladie neurodégénérative très avancée. Il est désespéré de la voir dans cet état et préférerait la voir morte. Il permet même au médecin, comme il le dit, de pousser la seringue un peu plus fort pour aider sa femme à mourir. Mais le médecin lui répond: Monsieur L, en tant que médecin, je peux vous dire qu'au stade auquel se trouve votre épouse, nous ne savons pas sur le plan médical à quoi tient encore sa vie. Si elle avait voulu partir, elle serait déjà partie. Ce que le médecin a voulu dire à ce monsieur, c'est que son épouse est la seule dépositaire de son existence. Et Monsieur L repart auprès de son épouse, ne parlera plus de Suisse et restera auprès d'elle, qui est décédée naturellement quelques semaines plus tard, quand elle l'a décidé. On comprend dès les premières pages que Elisabeth de Courrèges nous entraîne dans un univers qui côtoie la mort. Bien entendu, mais qui ne fait pas que la côtoyer. Elle l'accompagne dans une véritable dignité. Et la dignité, la véritable dignité, est justement d'être accompagnée, d'être considérée dans sa qualité d'être humain, quel que soit le degré de handicap ou de maladie. Le livre a reçu une préface de Sœur Marie-Sylvie Richard, médecin formateur à la maison Jeanne Garnier, une maison médicale qui, depuis 1874, à Paris, accueille des personnes en fin de vie. Dans sa préface, Sœur Marie-Sylvie met en avant cette dignité sur laquelle les soignants doivent veiller. Reconnaître la dignité du malade ou de la personne âgée, c'est chercher à communiquer avec lui pour tenter avec d'autres professionnels et proches de comprendre peu à peu ses besoins, ses demandes, ses joies, ses inquiétudes ou ses angoisses. Reconnaître sa dignité, c'est prendre soin de lui et de son entourage. L'apaiser, marcher à son pas, établir une relation qui ne lui ôte pas sa liberté ni sa capacité de réfléchir. Et ainsi, nous découvrons dans ce livre comment des personnels de santé peuvent veiller sur la dignité des malades. Veiller, mais aussi la rendre lorsque la vie ou la maladie a pu leur enlever. Elisabeth nous donne l'exemple de Madame R. Alors que le service est en plein dans le rush du Covid, avec un manque de personnel, elle remarque la beauté du visage de cette personne âgée. Elle décide alors de la faire belle. Elle va épiler le tour de sa bouche et lui mettre du rouge à lèvres. Elle prend du temps avec elle. Madame R se regarde dans le miroir, fond en larmes et murmure « Il y avait si longtemps ». Car c'est cela accompagner une personne vers la fin. L'auteur le dit elle-même, soigner en fin de vie, c'est soigner jusqu'au bout, dans les moindres détails. Elle nous parle de Monsieur I, qui est emmuré dans un silence et une immobilité due à Alzheimer. lui qui était un si grand amateur de danse de salon. En lui faisant écouter de la musique, d'un seul coup, Monsieur I se met à battre le rythme doucement avec son pied. Il faut savoir entretenir la flamme de vie malgré une immobilité, car comme le dit Elisabeth de Courrèges, il existe toujours des capacités discrètes qu'il faut savoir mobiliser. Un autre exemple, c'est Leïla. Alors Leïla, elle est dans un état post-relationnel, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus et ne bouge plus depuis qu'elle est sortie du coma. Elle communique simplement par des signes très minimes, clignement des yeux, une larme parfois, un petit mouvement du regard, etc. Mais on prend soin d'elle. Leïla est maquillée, coiffée, bien habillée, même très bien habillée. On pourrait se dire à quoi bon faire cela ? Oui, à quoi bon puisqu'elle va partir. Mais justement, cette fameuse question, cet à quoi bon que l'on pourrait se dire, eh bien on ne se pose pas la question. Leïla, elle est là, donc on fait tout pour elle. La veille de sa mort, elle reçoit même un nouveau fauteuil flambant neuf. Mais qu'importe qu'elle ne l'ait pas utilisé, elle a été entourée et considérée jusqu'au bout. À quoi bon ? Elisabeth de Courrèges balaye cette question qui pourrait faire penser qu'il n'y a pas d'intérêt à accompagner dignement la fin de vie. Mais comme elle l'écrit, la fin de vie est encore un temps de vie. Pourquoi abréger ces derniers instants ? Pourquoi priver les personnes de ce temps du possible ? Nous ignorons ce que leur vie leur réserve encore. Un regain d'énergie, un projet, un défi, un pardon, un merci. Rien peut-être aussi. Mais nous ne savons pas. Il ne s'agit surtout pas de maintenir la vie à tout prix, mais de soutenir la vie et de tenir la main, et cela n'a pas de prix. Un autre exemple. Une femme est amenée dans le service. Elle est en fin de vie. Son corps est marqué de traces terribles. Le corps semblait tailladé, scarifié. La sonde urinaire restée en place trop longtemps sans bouger a laissé une trace, comme si elle avait été marquée au fer rouge. Un corps qui finalement n'est qu'une sorte de plaie béante et douloureuse. On le sait dans le service, cette personne n'a que quelques jours, quelques heures à vivre. Eh bien, cette malade, elle sera nettoyée, elle sera choyée, elle sera massée pour lui éviter de nouvelles douleurs. Une sorte de mousse va être placée entre ses doigts serrés pour éviter des marques douloureuses. Son corps sera délicatement bougé afin d'éviter la formation d'escarres, et cela toutes les 3 heures, jour et nuit. Elle ne va pas communiquer que par des soupirs de souffrance ou de soulagement qui vont permettre à l'équipe de savoir s'ils sont sur la bonne voie pour l'aider. Et les plaies vont cicatriser, et cette personne-là qui décédera quelques semaines après va partir vers l'éternité dans un certain soulagement, libérée de certaines douleurs. On pourrait imaginer que ce genre de soignants font de l'acharnement thérapeutique. Or, comme le dit très bien Elisabeth de Courrèges, oui, elle fait de l'acharnement, mais un tout autre acharnement. Un acharnement de professionnalisme, de respect et d'amour. Rien ne compte plus pour ces professionnels que le confort de leurs patients. Le confort de chaque jour, celui qui fait qu'on permet aux patients de garder les yeux ouverts au monde qui les entoure jusqu'à ce qu'ils partent. Les partisans de l'euthanasie, comme elle le rappelle, défendent un droit à mourir dans la dignité. Cela insinue donc que ceux qui n'y ont pas recours seraient susceptibles de mourir dans la dignité. Mais cette insinuation est insupportable pour ceux qui accompagnent la personne en fin de vie et pour les soignants. Mais elle est surtout insupportable pour toute personne en fin de vie ou malade qui se trouve à ce moment-là considérée comme indigne. Comment peut-on alors regarder notre propre vie si on nous fait comprendre qu'elle-même n'est indigne ? Elisabeth de Courrèges l'écrit elle-même, de même que toutes les vies humaines sont dignes, que tous les corps sont dignes, que toutes les histoires de vie sont dignes, toutes les morts le sont aussi. Alors on s'en doute, en lisant le livre, c'est la foi qui guide le choix d'Elisabeth. C'est la foi qui lui donne l'envie et la force d'accompagner ces personnes-là. La foi et le message de l'Évangile qui font qu'elle est présente auprès de ceux qu'il faut accompagner jusqu'au bout. L'euthanasie est une réponse à la souffrance. On oppose toujours l'euthanasie à l'acharnement thérapeutique, comme s'il n'y avait que ces deux voies. Or, il y a une troisième voie, la réponse de l'amour. Comme l'écrit Elisabeth, quand la souffrance, l'incertitude, la désespérance, la solitude font irruption dans la vie de ceux que nous côtoyons, elle nous convoque et appelle ce que nous avons de plus profond. Choisissons de répondre par l'amour, pas par la mort. Rien, jamais rien ne peut justifier le droit de donner la mort à un homme innocent. Ni son âge, ni son degré de handicap, ni son inconscience, ni son extrême vulnérabilité, ni même son désir de mourir ou de se suicider. Toute vie humaine doit être respectée, spécialement au moment où elle est le plus fragilisée. L'interdit fondamental du meurtre est plus qu'un cadre moral. Il nous pousse à être créateurs, il ne nous en laisse pas le choix. Voilà pourquoi je vous invite à lire cet ouvrage, un véritable hymne à l'amour et à la vie. Il donne des forces pour vouloir changer les mentalités. Il donne de l'espoir dans une société mortifère qui cherche à promouvoir une culture de mort. Et surtout, il replace la dignité à sa juste place. Kant, dans son livre « Fondement de la métaphysique des mœurs », écrit « Tous les hommes sont dignes d'une dignité absolue et doivent être respectés, et ceci même si Dieu n'existait pas. La dignité ne peut être ôtée et ne dépend ni du statut social, ni de l'état de santé de la personne, et elle ne peut se perdre. Voilà pourquoi il est important de pouvoir lui redonner son véritable sens. Nous veillerons sur votre dignité, parole d'une soignante par Elisabeth de Courrèges est parue aux éditions MAM en 2022. On le trouve à la librairie du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et dans toutes les librairies.
Voilà pour ce coup de cœur littéraire qui nous est proposé cette semaine par Nicolas Dargegène. Dans quelques instants, nous allons nous intéresser à la Fraternité Saint-Laurent avec la chronique Solidarité de Anne Deslois.
Toi qui me parles pour que j'ai moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles trouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène où le soleil le soir va se reposer.
Une chanson de France Gall dans cette première émission de Radio Présence.
Radio Présence dans la Cité Mariale. 96.
Et de ce Présence Midi plus exactement, voici maintenant la chronique littéraire de Anne Deslois. Elle nous propose aujourd'hui de découvrir ou de poursuivre notre découverte de la Fraternité Saint-Laurent, puisqu'il y a de cela deux semaines, nous avions lu le premier volet consacré à cette association.
Bonjour à tous nos auditeurs, nous avons la joie de nous retrouver pour Solidairement Vôtre, cette émission qui donne la parole à des acteurs de la solidarité au sein de notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors aujourd'hui, avec moi, pour la deuxième émission, eh bien j'accueille Sophie Poinbio. Bouillon, excusez-moi, toujours j'écorche. Hein.
C'est pas grave,
et
bonjour.
Et puis Benoît Arnaud. Alors, vous représentez l'un et l'autre la Fraternité Saint-Laurent, le Secours catholique. On a déjà eu une première émission il y a quelque temps qui nous présentait bien ce qu'était la Fraternité Saint-Laurent. Et là, on va venir plus dans le détail, dans les différentes propositions que vous faites. On va pouvoir redonner aux auditeurs des éléments importants pour qu'on sente bien ce que vous y vivez. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler que dans l'année du Jubilé d'Espérance, le pape Léon XIV, le 16 novembre à Rome, a donné rendez-vous à toute une multitude de personnes dans le cadre du Jubilé des pauvres. Je crois qu'il y avait un peu plus d'un million ou
1500 personnes.
Et au même moment, ici, au sanctuaire de Lourdes, se vivait aussi la journée mondiale des pauvres, qui a été instituée il y a peut-être une petite dizaine d'années.
C'est pas François qui l'a instituée il y a 10 ans.
Il y a 10 ans. Donc voilà, vous-même, au sein de la Fraternité Saint-Laurent, vous avez organisé cette journée mondiale des pauvres au sanctuaire de Lourdes. Qu'est-ce que vous avez vécu, Sophie?
Qu'est-ce qu'on a vécu? Eh ben, on a vécu de se rassembler tous les pèlerins qui étaient là, et puis le petit café du matin comme d'habitude, et ensuite on est allé à la messe. On a vécu la messe de la fraternité.
La messe à la grotte
de la journée mondiale des pauvres
et à la grotte.
À la grotte. Et ensuite, on est allé au cierge aux Lumières. Et puis, après, on est revenu pour un petit apéro.
Bon, ça fait toujours du bien.
Qu'on avait préparé. Et puis, un repas à partager comme on fait en fraternité.
Une démarche, en fait, de pèlerinage auprès de Bernadette.
Oui.
Avec laquelle vous vous sentez aussi très liée par le message même de la vie de Bernadette.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est merveilleux de voir tous ces gens à la grotte, prier tous ensemble, et puis après se diriger vers les lumières et tout. C'est fabuleux. Et il y a toujours il y a une fraternité qui se crée, même des gens qu'on ne connaît pas, hein, parce que c'était plein, la grotte était pleine.
Hein. Et comment, au cours de cette journée, les membres de la Fraternité Saint-Laurent arrivent à exprimer des choses? Comment ils sont touchés intérieurement, et est-ce qu'ils les expriment peut-être par des écrits, par simplement des paroles? Comment vous arrivez à recueillir les fruits de cette journée?
Moi déjà, je dirais que la Journée mondiale des pauvres, c'est religieux, parce que ça a été créé par le pape François, mais c'est tout d'abord un message, je dirais, au respect et à la
dignité, peut-être
à la dignité humaine.
Oui.
Une responsabilité collective face à la pauvreté. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se soucie pas assez de ces gens-là. Ils se trouvent invisibles. Mm. Ils ont besoin de recréer une...
Et là, vous sentez que l'Église leur donne vraiment une place, quoi. Ils sont au cœur du message de l'Évangile, tous ces pauvres.
C'est dur de dire que l'Église leur donne une place. Il faut encore beaucoup travailler là-dessus.
Petit à petit.
petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Voilà.
Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Oui.
Benoît, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette journée mondiale qui s'est vécue au sanctuaire?
Si on s'arrête sur le dimanche, alors nous, la Fraternité Saint-Laurent, la plupart, on était là le dimanche. Mais on est rentré dans une organisation montée par un collectif, en fait. C'est plusieurs années qu'on vit cette journée mondiale des pauvres au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et en fait, ce collectif, c'est le groupe Place et Parole des Pauvres, qui est porté à la fois par le sanctuaire et à la fois par le réseau Saint-Laurent auquel on appartient. Et donc c'est Olivier Barré et le frère Antonello qui accompagnent ce groupe-là, qui pendant toute l'année se réunissent et partagent la parole autour du thème d'année du sanctuaire. Et donc chaque année, au moment de novembre, on organise ensemble, en collectif, cette journée mondiale des pauvres. Alors, nous, notre pédagogie à la Fraternité et dans le réseau, et c'est de faire et de vivre avec et à partir des plus pauvres. Alors ça, je vais le marteler tout le temps. Avec et à partir des plus pauvres. Si on veut faire en église, c'est avec et à partir des plus pauvres. C'est dans la doctrine sociale de l'église, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Si je n'oublie pas le plus pauvre, le plus précaire, je n'oublierai personne d'autre. Ça veut dire ça. C'est pas mettre sur un piédestal, mais c'est vraiment à partir d'eux, on pourra embarquer tout le monde. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette journée, elle commence le vendredi soir. Le vendredi soir, les gens se réunissent, un petit groupe se réunit à la cité Saint-Pierre. Il y avait Partage Espérance de Pau, Saint-Vincent-de-Paul de Pau, la Fraternité Saint-Laurent de Lourdes, quelques individuels. Et ils se sont réunis à la cité Saint-Pierre. Et ensuite, le lendemain au sanctuaire, pour commencer à préparer, partager l'évangile du dimanche avec Jean-François Pénouette, l'aumônier de la cité Saint-Pierre, qui a écouté et qui a travaillé son homélie à partir de la parole des plus pauvres. Donc on partage, on prépare la prière universelle. On célèbre ensemble, on fête ensemble, on a une veillée. Et le lendemain, eh bien, cette journée, c'est pas juste une journée où on est
participant,
un spectateur. On est complètement acteur de ce qui va se réaliser. Et ce qui est important, c'est à la fois la célébration qu'il y a, le temps de prière qu'il y a à la grotte, où on vit quelque chose qu'on a préparé ensemble. Le temps des lumières pour transmettre cette prière que l'on a et les intentions de prière. Et après, il y a toute cette fraternité qui se vit autour de l'apéro, le repas, comme dit Sophie. Mais après le repas, on a prié ensemble, on a bougé les tables, les chaises, on a prié ensemble, on s'est donné des nouvelles. Et on a eu des témoignages très forts de personnes qui ont dit « Mais moi, je ne croyais plus en Dieu, je suis arrivé à la grotte, les copains ne voulaient pas. » Et en fait, il m'est apparu tout simplement que je suis allé au sacrement de réconciliation. Et ça faisait 30 ans que je n'étais pas allé au sacrement de réconciliation. Ça, c'est un copain de Pau qui nous a témoigné de ça. Et donc, tous ces témoignages-là de personnes que l'on n'entend pas forcément, parce que quand on va à l'église, on va le dimanche à l'église, on a l'homélie, on part et chacun repart. Et en fait, ce temps de célébration, de fraternité, de convivialité, il est aussi important que l'Eucharistie. Et donc du coup, c'est ça qui nous porte.
On sent justement que ce qui se vit là, ça me fait penser aux premières communautés chrétiennes à Antioche. C'est-à-dire qu'on avait le plaisir de se retrouver, de se partager des nouvelles, de se retrouver autour de la table, de partager le pain. Et puis voilà, après chacun repart aussi réconforté et en soutien les uns avec les autres. Merci de votre beau témoignage aussi, Sophie. Et Arnaud, vous vouliez nous présenter aussi un livre, un recueil de paroles des pauvres, paroles et couleurs. De quoi s'agit-il ?
Le réseau Saint-Laurent et le Secours catholique ont souhaité que la parole des pauvres puisse être entendue dans ce cadre du jubilé de l'espérance. Et donc, du coup, on a travaillé, chaque fraternité, et nous, à Lourdes, on a travaillé. D'ailleurs, l'évêque était présent, notre Monseigneur Mika était présent avec nous ce jour-là. On a partagé, à partir de la parole de Romains 5, 2b5, l'espérance ne déçoit pas. Et donc on a partagé à partir de ce texte-là très simple sur les résistances et sur l'espérance que chacun porte, et notamment dans les détresses, qu'une détresse, une galère apporte vraiment l'espérance. En gros, plus on vit de galère, et en fait plus vous interrogez les gens qui vivent les galères, plus vous rendrez compte que le pourquoi elles se lèvent le matin et la colonne vertébrale qu'elles ont, qu'est-ce qu'ils font croire en la vie, et là vous puiserez quelque chose de l'ordre de l'espérance. Et donc on a puisé ça, on a donné notre texte, on est 40 fraternité avoir partagé ça du groupe du réseau Saint-Laurent et du Secours catholique, et on en a fait un très beau livre édité par les éditions de l'Atelier avec le CERAS, le centre sur l'action sociale des jésuites, et on a fait une résidence artistique avec des mandalas, et on a fait un très bel ouvrage avec des extraits de tous les textes qui ont été remontés et cet ouvrage-là. Et donc, c'est un ouvrage qui est en vente aux éditions de l'Atelier
et qui a pour titre « Les pauvres pèlerins d'espérance, paroles et couleurs », justement, puisque chaque page contient une parole, une prière, un texte, et puis en face, un mandala, donc réalisé par les uns et les autres. C'est très joli. Est-ce que vous pourriez, avant de conclure notre émission, Sophie et Benoît, chacun donner une expression, un mot, une courte phrase pour dire ce que la fraternité signifie pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que la fraternité, Sophie ? Qu'est-ce que c'est être fraternel ou le mot fraternité, qu'est-ce que ça représente pour vous avec votre expérience, Sophie ?
Frères et sœurs.
Frères et sœurs, oui, tout simplement.
Famille.
Famille. Et vous, Benoît ?
Moi, j'ai quand on a interrogé les personnes de la fraternité, moi je dis c'est se relier, ça c'est sûr. La question du lien est importante, mais il y a une personne qui disait « Je viens à la fraternité pour briser la solitude qui me pèse beaucoup, je m'accroche au Seigneur ». Et je reprends la parole aussi d'un prêtre qui a accompagné pendant très longtemps, pendant 40 ans, des réseaux ignatiens. Et quand il a vécu ce que l'on vit en fraternité, il a dit « On entend la parole de Dieu par la parole des hommes ». Voilà. Et venez à cette fraternité, vous verrez, c'est sans filtre. Et vous venez comme vous êtes. Et on peut partager ensemble et vivre ensemble, partager ensemble l'évangile, la parole de Dieu et vivre ensemble la fraternité. Pas en mots, mais en actes.
Merci Sophie, merci Benoît pour vos témoignages forts. Je vais vous dire bonne continuation dans vos missions respectives et puis surtout à une prochaine fois pour connaître un peu plus de choses sur la Fraternité Saint-Laurent. On se donne rendez-vous dans quelques mois.
Merci beaucoup Anne,
merci
bientôt.
Merci beaucoup.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci Anne Deslois pour nous faire découvrir toutes ces belles choses qui se déroulent autour de nous. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous découvrirons un tiers-lieu qui s'appelle Amasso. Ça veut dire ensemble et ce sera à Lourdes. Dans quelques instants, Catherine Albrecht qui nous fera découvrir Alain Fournier. Of tall cascading fountains of love, I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. Deep caressing rain. Colors of Love, c'était Lisa Ekdahl sur Présence.
Présence à Pau, 96.
Alain Fournier s'est rendu dans notre région, il en a gardé de bons souvenirs et il a écrit sur l'Occitanie. C'est ce que nous narre aujourd'hui Catherine Albrecht dans sa chronique littéraire.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Alain Fournier. Henri Alban Fournier, dit Alain Fournier, est l'auteur du Grand Maulne, paru en 1913, roman qui connut un succès fulgurant et demeure l'œuvre littéraire française la plus traduite et lue dans le monde après Le Petit Prince. Il effectua plusieurs périodes militaires à Mirande, dans le Gers, comme sous-lieutenant au 88e régiment d'infanterie. Dans sa correspondance, il a évoqué à plusieurs reprises ses séjours gersois, notamment le premier au cours duquel il découvre les Pyrénées et visite Lourdes. Alain Fournier a disparu près de Verdun avec une vingtaine de camarades dès les premières semaines de la monstrueuse boucherie de 1914. Conduite par un supérieur inflexible et borné. J'ai un capitaine vachard, baderne et ennuyeux à pleurer, avait-il écrit quelques semaines avant sa disparition. La petite escouade dont il faisait partie s'était en fait engagée par erreur derrière les lignes allemandes et a été massacrée. On a retrouvé le corps de l'écrivain qu'en 1991, près de Saint-Rémy-la-Calonne. Dans ses extraits de lettres à sa famille du printemps 1909, il évoque sa nouvelle affectation, Mirande, et l'on perçoit son impatience de découvrir les Pyrénées. « Mes chers, je vois par ma fenêtre un petit prunier tout fleuri. Hier, il faisait grand vent et poussière. Aujourd'hui, c'est un soleil que le vent ne fraîchit pas, je me crois à la fin d'avril. » La chapelle n'est même pas plus calme que ce bourg, que ce haut de rue où donnent mes fenêtres. Je n'entends, comme au soir d'été, que des voix d'enfants très loin. Parfois un train, un pas tranquille sur la route. C'est délicieux et triste. Je me sens dans un isolement terrible. Une fois passé Auch, j'ai commencé à regarder du train si l'on n'apercevait pas les montagnes. Nous passions entre des collines, dans de petites vallées, où nous montions lentement des rampes. Et j'ai enfin découvert, tout à coup, très loin dans la buée blanche, mais visible, à cause de l'éclat plus blanc de la neige, les grands pics tassés. C'est ainsi qu'on les voit de Mirande, de la gare, de l'hôtel, du tennis. On est hanté par le désir de s'en approcher. À bicyclette, on veut toujours monter une côte, encore et encore, encore une, dans l'espoir de les découvrir. Parfois, on en découvre des centaines de kilomètres. Il y a des jours, paraît-il, où le pic du Midi paraît être à quelques heures. Nous avons été accueillis par les officiers d'ici avec une cordialité et une simplicité exquises. Nous prenons nos repas avec les lieutenants célibataires. Il y en a d'infiniment drôles. Mais leur vie est la plus morne, la plus inutile qui soit. Et je me demande comment ils y résistent. Je suis tombée dans la compagnie rêvée. Pour vous donner une idée du capitaine, ce gros bonhomme a été trouver mon ordonnance au réfectoire pour lui faire des recommandations spéciales sur la façon de se comporter avec mon propriétaire. On n'est pas plus paternel. Une seule chose me plaît ici. C'est ma solitude dans cet appartement qui donne sur des champs, des routes et la route de Tarbes. Les bœufs aux pattes obliques, étayés l'un contre l'autre, emmènent au pas de grandes charrettes, les familles de paysans. C'est le grand calme antique. De mon bureau, je vois à l'horizon s'accumuler de lourds nuages blancs. Il y a plein ma chambre de roses cueillies dans les haies. Lettre à sa famille. À travers le regard et les mots d'Alain Fournier, inspirés par nos montagnes, nos paysages, notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ce rendez-vous littéraire que vous nous proposez tous les vendredis aux alentours de 12h55. À toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle journée, un bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre fidélité, je ne vous quitte pas sans vous avoir rappelé l'heure de la prière, bien sûr, sur Présence, qui continue tous les jours, 7 jours sur 7, une prière méditée depuis la grotte de Massabielle au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, ce chapelet que nous diffusons tous les jours à 15h30. Très très belle journée et encore une fois belle et sainte année à vous tous.
A sparrow in a tree, or why somebody cares for you. You look in someone's face and find your lovely place to wait in arms to hurry to. There's no explaining love or all the wonders of a simple why of you.
À Lannemezan, 92.2. Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La Suisse encore sous le choc, plus de 24 heures après l'incendie d'un bar de Crans-Montana, au moins 40 personnes.